s'il y a l'art de se taire, il y a aussi l'art de se faire entendre. Les deux sont sûrement utiles, cependant l'art de se faire entendre n'est-il pas plus difficile que l'art de se taire ? C'est ainsi, Alain Braconnier, que vous commencez votre dernier ouvrage paru chez Odile Jacob intitulé « On ne m'écoute pas » et qui a pour sous-titre « Enfin compris ». Alain Braconnier, bonjour.
Bonjour.
Alors, en tant que psychologue et psychiatre, vous êtes un spécialiste de l'écoute. Alors, n'avez-vous pas déjà écouté des milliers d'heures et des centaines de personnes ?
Ah si, 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 ça montre que j'ai un certain âge. Et qu'en effet, ce livre est issu d'ailleurs de cette expérience professionnelle, mais aussi humaine, personnelle, qui fait que je crois qu'aujourd'hui, on serait peut-être parfois étonné que beaucoup de personnes viennent nous voir parce qu'elles ne se sentent pas écoutées. Et que cette situation les fait souffrir, les angoisse, les met en colère. Et que ce paradoxe est qu'on a aujourd'hui tous les moyens de communication comme jamais. Eh bien, on n'est pas si facilement écouté comme on voudrait l'être, en tout cas, qu'on peut le penser grâce à ces moyens de communication. Ces moyens de communication facilitent incontestablement la communication, mais je fais cette distinction que j'évoque dans ce livre entre la communication et la conversation. La conversation, on est avec l'autre, on est dans un échange avec l'autre, on le voit, on le sent, il y a deux présences humaines qui, au fond, sont ensemble. Et la communication, c'est un outil qui vous fait vous rencontrer. Tandis que là, la conversation, c'est vraiment... Alors, ça peut être peut-être classique de dire ça ou de renvoyer au XVIIe siècle, mais je crois que l'art de la conversation doit être encore maintenu aujourd'hui, même si ces moyens de communication peuvent être très utiles pour d'autres choses.
Alors, ensemble, nous avons l'art de la conversation et les auditeurs, c'est l'art de la communication.
Oui, alors les auditeurs, c'est l'art de la communication. C'est pour ça que je dis que ça peut être utile, l'art de la communication.
Ça démultiplie, effectivement, d'une façon extraordinaire.
Ça démultiplie, ça informe, mais ça ne permet pas aussi facilement qu'on pourrait le penser l'interaction. Et ça ne permet pas non plus la rencontre qui fait qu'on va réfléchir sur ce que vous dit l'autre. Et du coup, ça vous fait réfléchir sur vous-même. La communication, c'est quelque chose qui est plus dans l'immédiateté, qui est plus dans... On donne une information, on la retient ou on la retient pas, mais on n'est pas dans cette situation humaine qui fait qu'il y a des présences humaines qui se parlent et qui conversent.
Pourquoi est-ce si important de se sentir écouté ?
Je crois que c'est important dans toutes les situations à tous les âges de la vie, du bébé qui a besoin de se faire comprendre par son environnement familial, par sa maman ou son papa maintenant bien sûr, et à la personne âgée qui est dans une maison de retraite et qui se sent seule, et tout au long de la vie, on a besoin de se faire entendre, on a besoin de sentir que quelqu'un vous comprend, parce que c'est ça qui fait que, au fond, on est humain.
Qu'on existe.
Qu'on existe et qu'on est humain. Au fond, la parole est quand même la spécificité de l'homme. C'est l'utilisation de cette parole qui est vraiment dans cette conversation que moi je privilégie. Le support, c'est pas l'outil, c'est la parole.
Alors vous dites bien sûr que être écouté, ça renforce le moi, c'est-à-dire que ça renforce la confiance aussi en soi, le fait de pouvoir être écouté par quelqu'un.
Oui, alors il faut chercher un cercle vertueux, comme on dit. C'est-à-dire que être écouté vous donne confiance parce que ça vous permet au fond de sentir que ce que vous dites est intéressant, que vous êtes intéressant dans le bon sens du terme. Et en même temps, il faut avoir confiance en soi pour être écouté. C'est-à-dire, il faut savoir dire les choses, les dire en étant suffisamment, je dirais, calme, mais ferme, pour faire passer un message. Donc on voit bien que c'est un cercle vertueux. Si on est confiant en soi, on va pouvoir exprimer les choses. Si on peut exprimer les choses, on va prendre confiance en soi et on est comme ça dans une relation avec l'autre, mais aussi avec soi-même, qui est bien meilleure.
Vous avez une belle formule, vous dites « être écouté, c'est soigner ses mots M-A-U-X du corps et de l'âme, par des mots M-O-T-S ».
Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors c'est une formule largement répandue, mais c'est exactement ça. Et nous, c'est notre métier, hein, mais une fois de plus, notre métier n'est qu'une situation particulière de la relation humaine. Dans toutes les relations humaines, c'est comme ça qu'on peut soigner ces mots M-A-U-X en mettant des mots dessus. Alors, MOTS.
C'est votre métier et on sait combien pour vous, les psychiatres, il est important aussi, on vous dit souvent, ben, la parole libère. C'est une catharsis en fait. Ça fait quoi exactement dans la personne quand elle arrive à parler ?
Oui, oui, la parole libère. Ça, c'est, on le sait bien parce que, pourquoi on le sait au niveau de nos professions ? Parce qu'on a des personnes qui viennent nous voir et qui ont beaucoup de mal à exprimer les choses. Et nous, nous sommes en effet là pour les écouter, mais c'est pas facile de savoir ce qui leur arrive s'ils ne nous parlent pas. Bon, donc il faut savoir respecter au fond cette difficulté d'exprimer les choses. Et en même temps, quand ils commencent à les exprimer, qu'ils se sentent suffisamment en confiance, ben, on voit combien ils sont heureux d'avoir pu rencontrer quelqu'un à qui ils peuvent exprimer les choses. Et puis il y a des aspects encore plus particuliers. Il y a des secrets. Il y a des secrets qu'on n'arrive pas à dire. Mais il n'y a pas de secret sans confident. Le problème, c'est de trouver le confident. Il y a des secrets qui peuvent être des secrets de notre propre histoire, d'événements qui sont arrivés, dont on a un peu honte, ou même parfois très honte, ou qu'on est culpabilisé. Tout ça peut être un poids pour notre vie ou dans notre vie, et que ces secrets qu'on n'arrive pas à évoquer, ou ces souvenirs qu'on n'arrive pas à exprimer, qui ont été difficiles, eh bien tout ça fait du bien de les exprimer. C'est pas facile, on a peur de les exprimer, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'en les exprimant, on va pas toujours ressasser les mêmes choses ? Alors, c'est vrai que nous avons cette tâche d'essayer de faire en sorte que la personne nous parle le plus librement possible, mais ne se sente pas trop menacée par ce qu'elle doit dire. Il faut prendre son temps, il y a du temps, la notion de temps est importante.
Et on revient à ce qu'on disait dans la première émission, l'importance de la personne à qui on va s'adresser. Parce que, par exemple, vous parlez des secrets, peut-être les personnes à qui on peut s'adresser, ça peut être un psychiatre, ça peut être un prêtre, ça peut être différentes personnes, mais peut-être pas des personnes trop proches pour qui ce secret serait trop lourd, peut-être pas partager ce secret avec son enfant. Enfin, il faut vraiment trouver une certaine justesse, non ?
Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai que le milieu psy, je dirais, vous savez, il y a des modes dans notre milieu, comme dans tous les domaines. Le milieu psy, à un moment, a beaucoup défendu l'idée que les personnes qui avaient des difficultés, il fallait absolument découvrir le secret qu'elles n'arrivaient pas à dire, secret les concernant, même secret de transmission familiale. Dans quelle famille il n'y a pas de secret ? Dans quelle famille il n'y a pas de secret ? Ben moi, j'en connais pas. Si on remonte plus ou moins loin, il y a toujours des secrets de famille. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller chercher des événements qui ont concerné tel ou tel oncle, grand-père, etc. ? Pas forcément. C'est pas ça qui fait qu'on va être très angoissé ou trop déprimé. Mais c'est vrai que, de façon plus humaine, plus simple, je crois que ça fait du bien quand on sent qu'il y a quelque chose qui vous pèse, de pouvoir l'exprimer à quelqu'un en qui on sent d'abord qu'il ne vous juge pas. Parce que le jugement fait peur. Quand on sent quelqu'un qui vous juge, on a toujours un peu peur de se confier. Et qui est vraiment là pour vous aider à vous libérer de ce qui vous pèse.
Et souvent, il faut aussi que vous, en tant que thérapeute, vous sentiez les choses au-delà des mots.
Oui, alors on est dans le registre de l'interprétation quand vous dites ça. C'est vrai, mais l'interprétation, elle est aussi précédée par d'autres formes de, je dirais, d'échange. Il faut savoir d'abord un peu expliciter, permettre à ce que la personne explique un peu ce qui se passe. Il faut l'aider à clarifier. C'est-à-dire à faire préciser les choses. Il faut aussi l'aider à la confronter à ce qu'elle pense. Ah oui, vous pensez ça, mais on peut peut-être penser autre chose. Et puis après, on peut interpréter. Parce qu'il faut faire attention avec l'interprétation. Moi, je crois beaucoup à l'utilité de l'interprétation, mais c'est complexe, l'interprétation. Et parfois, il ne faut pas interpréter trop vite. Parce que la personne se sente menacée. C'est ce qu'on appelle, nous, l'intrusion. Il y a des personnes qui ont très peur, de se découvrir. Elles ont peur de se laisser aller ou de laisser aller quelque chose qu'elles veulent justement garder pour elles. C'est l'intime, c'est la dimension de l'intime. Ben, faut être attentif à la dimension de l'intime.
Il faut un grand respect.
Ah oui, il faut du respect et faire en sorte qu'on soit dans une relation où justement le sujet est avec un autre. C'est-à-dire qu'il vient nous voir, par exemple, mais c'est aussi dans la vie personnelle. Hein. Et en même temps, vous savez, l'intime, ça a un double sens. Hein. C'est-à-dire, c'est l'intimité, donc l'intimité à deux, mais c'est aussi l'intime avec soi-même. Donc, je crois qu'il faut aussi savoir respecter l'intime. c'est important d'être authentique. Ça sent l'authenticité. Et moi, j'ai appris ça avec les adolescents. Je vois tous les âges de la vie, mais je vois pas mal d'adolescents. Et les adolescents, on ne leur raconte pas d'histoire. Alors, Françoise Dolto avait fait une analogie avec le homard, c'est-à-dire...
Avec le homard.
Oui, oui. Il est rouge à l'extérieur et très, très habité à l'intérieur. Et l'adolescent, c'est un peu ça. Il a une carapace, il est rouge, il est parfois un peu agressif, mais il a beaucoup de vie intérieure. Je crois que c'était une belle métaphore. Je crois qu'en effet, avec les adolescents, si on n'est pas authentique, eh bien, ils vous le font payer. Hein. Et je l'ai appris aussi par rapport à ce qu'ils peuvent me dire à moi, étant extérieur à leur vie scolaire, de leurs enseignants. Ils respectent les enseignants qui sont authentiques. Ils ne respectent pas les enseignants qui laissent tout faire ou qui veulent se faire les adolescents avec les adolescents. Ils respectent vraiment l'enseignant qui sait se faire entendre et qui est authentique, qui les intéresse et qui est authentique. Et puis on le sait aussi par rapport à la vie des médias. On sait très bien qu'il y a des personnages qui passent plus ou moins à la télévision ou à la radio. Ceux qui sont authentiques, ils passent mieux. Vous devez sûrement savoir ça. Eh bien, c'est vrai. Et c'est vrai dans l'échange humain en général.
Alors Alain Braconnier, je rappelle donc que vous êtes psychiatre, que vous avez écrit « On ne m'écoute pas », enfin compris comme sous-titre aux éditions Odile Jacob, et qu'ensemble, nous parlons donc de comment être écouté. Pas simplement comment nous-mêmes on peut écouter, mais déjà comment être écouté. Vous dites que c'est normal en fait si souvent un adolescent a du mal à s'adresser à ses propres parents. Souvent, il y a un mutisme qui est pour les parents très lourd à porter. Et ils s'adresseront plus facilement à une tierce personne, entre autres à un ami ou peut-être même à un thérapeute, parce que là, il n'y a aucun jugement et peut-être aussi peut-être aucune attente.
Oui. Avant un ami et un thérapeute, il y a les grands-parents.
Ah oui, les grands-parents.
Ah oui, ils sont très importants pour les enfants et pour les adolescents. C'est étonnant de voir combien les adolescents ont, quand ils sont en conflit avec leurs parents, et c'est vrai que ça fait toujours un petit peu partie de cette période de la vie, plus ou moins important, conflit plus ou moins important et plus ou moins durable. Mais il y a toujours un grand-parent qui existe pour eux et que ça, c'est vraiment intéressant. Alors, et puis les amis, bien sûr, les amis. Et avoir une écoute de ses amis, de ses pairs, P-A-I-R-S, c'est très important à cet âge-là.
Parce que dans les critères que vous donnez pour choisir son bon interlocuteur, vous dites une chose extrêmement importante, il ne faut pas qu'ils se sentent jugés, il ne faut pas aussi qu'on nie leurs problèmes, mais en général, une personne qui cherche un bon interlocuteur doit choisir une personne qui n'est pas dans le déni. Quand vous voulez dire que vous souffrez, il ne faut pas que la personne tout de suite vous dise « mais non, mais ça ira mieux » pour qu'il y ait une vraie écoute.
Oui, bien sûr. Mais il faut aussi savoir que dans l'écoute, il y a des difficultés qu'il faut préciser parce que c'est inutile, en effet, de les dénier. La personne qui dénie, la personne qui ne veut rien savoir, au fond, c'est une personne
qui souffre.
C'est une personne qui est très angoissée de ce que vous lui dites ou qui est très mal à l'aise avec ce que vous lui dites. Donc, il faut savoir, une fois de plus, la prendre un petit peu son temps pour pouvoir dépasser ce qu'on appelle, nous, cette ressource que tout être humain a de dénier les trop grandes difficultés. Quand quelqu'un décède, quelqu'un qu'on aime, meurt, eh bien, on dénie qu'il est mort. C'est pas possible, c'est pas vrai. Bon, c'est la première phase du deuil, on le sait bien en psychologie. Eh bien, c'est vrai dans la vie humaine en général. C'est-à-dire que le déni est aussi une protection. C'est une protection qui est inutile parce que les choses sont ce qu'elles sont, elles se passent comme elles se passent, la réalité est la réalité, les rêves sont les rêves, les cauchemars sont les cauchemars. Donc il faut essayer de dépasser tout ça, ça fait partie de l'être humain, et que tout ça, il ne faut pas le dénier. Mais en même temps, il faut respecter la personne qui dénie les choses, à condition qu'elle ne soit pas malhonnête. C'est-à-dire que le déni peut être aussi une manière d'être malhonnête. Donc ça, c'est important aussi de faire la différence.
Oui, parce que ensemble, quand nous parlons, et aussi la fois dernière, on part du principe que la personne en face est bienveillante. Parce que si on a en face un manipulateur, c'est pas la même façon d'être avec lui.
Ah non, il y a des personnes avec lesquelles il faut incontestablement être prudent, si ce n'est même parfois méfiant.
Ou même fuir, ou même
tout simplement dire « Non, ça vaut pas la peine, vaut mieux passer à autre chose. » Sinon, soit en effet on peut se faire manipuler, soit on peut s'épuiser. Et que ça, c'est en effet quelque chose qui ne sert à rien. Alors, c'est pas facile, c'est pas toujours si facile que ça à le repérer, hein, parce qu'il vaut mieux quelqu'un qui vous dit carrément, qui vous fait sentir carrément qu'il ne veut pas vous écouter, que quelqu'un qui fait semblant de vous écouter alors qu'il ne vous écoute absolument pas.
Alors, si vous êtes à la place de la personne qui n'a pas envie d'écouter certaines choses parce que émotionnellement c'est trop fort, qu'est-ce que vous diriez pour que l'autre puisse entendre que vous ne voulez pas l'entendre sans aussi être violent vis-à-vis de l'autre personne ?
Bien, la personne qui ne veut pas entendre peut tout à fait, là aussi, dire des choses. Non, je préfère pas t'entendre. Soit je suis pas disponible, soit c'est quelque chose qui voit avec toi-même ou avec quelqu'un d'autre. Mais moi
c'est dur à entendre ce genre de réponse, non?
Oui, mais on n'est pas parfait. L'être humain n'est pas parfait, et en tout cas n'est pas. Il faut pas idéaliser non plus l'être humain. L'être humain a aussi ses angoisses, a aussi ses difficultés à écouter certaines situations. Nous, on a une situation qui est très particulière. Au sens professionnel, c'est-à-dire que quand on parle de quelque chose, je vais donner un exemple très concret, quand quelqu'un vient nous voir pour un problème de séparation de couple, par exemple, c'est pas pareil, bien évidemment, pour la personne qui vient nous dire ça, si elle a eu dans son enfance des séparations très traumatiques et très violentes, que si elle n'en a pas eu. Donc on voit bien qu'il y a des choses qu'il faut prendre en compte dans le développement humain, dans l'histoire de chacun, et qui est à respecter aussi de telle façon qu'on peut avoir une attitude un peu différente selon chacun.
Donc toujours respect des deux, de celui qui écoute et de celui qui entend, et que chacun puisse vraiment être en phase.
Oui, oui, alors, puisse le mieux possible être en phase.
Le mieux possible.
Oui, je ne suis pas dans l'idéalité. Moi,
non, je vois.
Je ne fonctionne pas dans l'idéalité humaine. Il faut aller vers un idéal, mais il ne faut pas être dans cette idéalité qui n'existe pas en tant qu'humain. On le sait bien. Je crois qu'il faut aller vers quelque chose qui va dans ce sens-là, et c'est ça qui est vraiment la source de bons rapports humains.
Alain Braconnier, vous écrivez qu'être écouté, ça permet à la personne d'entendre ce qu'elle a à l'intérieur.
Exactement. Alors ça, c'est très intéressant parce que, au fond, quand on cherche à être écouté, on attend d'abord de l'autre. D'ailleurs, les personnes qui viennent nous voir et qui nous disent « tel ou tel ne m'écoute pas », c'est toujours à cause de l'autre au départ. Bon, c'est normal, c'est logique, c'est bon. Puis petit à petit, on leur permet de comprendre en effet que l'autre peut être quelqu'un qui ne les écoute pas, mais ça peut aussi être incontestablement lié à la personne qui souhaite être écoutée. C'est pour ça que j'ai vraiment écrit ce livre, à savoir mieux être écouté. Et puis, c'est ça qui est étonnant, c'est que quand on est écouté, eh bien on s'écoute soi-même du coup. C'est-à-dire qu'on s'écoute dire ce qu'on ne disait pas forcément aussi clairement, y compris à soi-même. Et c'est ça qui fait la richesse de cette rencontre.
Alors vous reprenez un trait d'humour de Pierre Dac qui dit « Être écouté par les autres, c'est encore la meilleure façon d'entendre ce qu'on dit ».
Oui, oui, oui. Oui, je crois qu'il n'y en a pas de meilleur. C'est assez humoristique, mais c'est juste.
Mais c'est ce qui va se passer à partir de cette émission, en fait. Vous allez être écouté par les autres. Votre voix va être écoutée. Et peut-être que si vous réécoutiez ce que vous avez dit, vous allez être étonné, non ?
Oui, 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 ça m'est déjà arrivé d'être étonné de ce que je disais. Parfois en bien, parfois en me disant j'aurais peut-être pas dû dire ça, ou je l'ai dit trop vite, ou pas bien. Mais en effet, ça enrichit, au fond, de s'écouter. Ça enrichit. Alors de s'écouter, même comme vous le dites, en termes de propos, disons, explicites, mais ça enrichit aussi de s'écouter en termes plus profonds.
Alors on va terminer par une maxime profonde que vous avez écrite, hein, Alain Braconnier. Écouter, c'est plus que tendre l'oreille, c'est tendre son esprit et son cœur. Merci.
Merci.